Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, chers fidèles, notre Seigneur nous donne dans l'Évangile un grand critère de discernement. A fructibus eorum cognoscetis eos. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et peut-être une application actuelle vous a frappé. Car il y a un peu plus de 50 ans, on rêvait d'une nouvelle Pentecôte, d'un triomphe éclatant de la Sainte Église, enfin réconciliée avec le monde. C'est ce que l'on pensait, c'est ce que l'on désirait. Mais les fruits réels furent tout autres. Les églises se sont vidées. Les fidèles ont quitté la religion catholique par centaines et par milliers. Les séminaires se sont vidés. Par faute de vocation, ils ont été vendus. Les prêtres ont défroqué. Par centaines, les couvents ont été vendus et l'Église a été humiliée. Elle a été traînée dans la boue par le monde avec lequel elle voulait se réconcilier. Et malheureusement, des événements récents ne nous le montrent que trop. Oui, véritablement, la Sainte Église a connu une véritable passion, comme le disait Monseigneur Lefebvre. Les fruits de cette Église conciliaire sont manifestes et la condamnent. Et puis, cela montre bien que ceux qui occupent la place des pasteurs sont des loups ravissants qui font la perte des âmes. C'est donc un très important critère de discernement que notre Seigneur nous donne, qu'on peut appliquer à l'Église conciliaire. Mais, comme le dit notre Seigneur, il est nécessaire que le scandale arrive. Cela s'applique à l'Église conciliaire, mais tout au cours de la vie d'Église, des nouvelles hérésies se lèveront. Et peut-être aurons-nous à connaître aussi de nouvelles hérésies qui pourront peut-être se présenter sous des aspects plus séduisants encore que l'Église conciliaire, qui a pourtant fait tomber beaucoup de fidèles. Alors il est important de chercher à mieux comprendre ces paroles de notre Seigneur pour savoir discerner, parfois il faut discerner, où est la véritable Église. Et parfois cela n'est pas évident. Il faut être capable de faire la différence entre les faux pasteurs et les vrais pasteurs, entre les loups déguisés sous la peau de brebis et les véritables brebis. Alors voyons d'abord quels sont ces faux pasteurs que dénonce notre Seigneur, et puis ensuite, comment exactement peut-on les reconnaître, faire la différence entre les vrais pasteurs et les faux pasteurs. Alors tous les pères de l'Église, à propos de ces faux prophètes, sont d'accord pour y voir principalement les hérétiques qui déchirent l'Église tout au cours de son histoire. Ils sont revêtus de peau de brebis, c'est-à-dire qu'ils prennent toujours une certaine apparence de bien. Mais au fond, ce sont des loups, c'est-à-dire des ennemis de Dieu, des ennemis de l'Église, des loups rapaces, des loups ravisseurs, c'est-à-dire qui perdent les âmes. Ils sont revêtus de peau de brebis, tels furent par exemple Luther qui se présentait comme un réformateur. D'ailleurs, dans les premiers temps du protestantisme, on les appelait les réformés. On parlait de la réforme. Luther prétendait réformer la Sainte Église contre des abus qui n'étaient que trop réels. Mais lui-même, il aurait dû commencer par se réformer lui-même. Ses fruits étaient aussi manifestes. Luther était perclus du vice de l'impureté, de gourmandise, une gourmandise abominable, de grossièreté. Les bonnes âmes, ceux qui vraiment cherchaient à connaître la vérité, pouvaient le reconnaître à ses fruits. Ses fruits n'étaient pas bien beaux, c'était bien plus ceux du mauvais esprit que du Saint-Esprit. Et les pères de l'Église dénoncent plus spécialement les hérésies rigoristes, comme on dit. Il y a eu, au cours de l'Église, certaines hérésies qui étaient plutôt laxistes, qui diminuait la morale, qui rendait la vie plus facile et qui attirait les fidèles par une certaine ouverture exagérée en diminuant la rigueur de la morale catholique. Alors, pour cela, les fruits sont manifestes, ils sont faciles pour les véritables fidèles à discerner, pour y voir une hérésie. Mais il y a eu aussi certaines hérésies qui tombaient dans l'excès contraire, qui n'étaient pas laxistes, mais rigoristes, qui avaient une certaine intransigeance doctrinale ou encore morale et qui séduisait les âmes des simples. Par exemple, dans les premiers temps de l'Église, vis-à-vis du baptême, il y avait une certaine intransigeance doctrinale de certains hérétiques qui prétendaient que le baptême donné en dehors de la Sainte Église catholique, c'est-à-dire le baptême donné par les hérétiques ou par les schismatiques, aurait été invalide. C'était une hérésie qui attirait beaucoup d'âmes, justement, parce qu'il paraissait plus sévère, plus droit, juste un petit peu plus haut dans l'Évangile. Notre Seigneur disait qu'on rentre au ciel par la porte étroite. Alors, ces hérésies rigoureuses paraissaient plus étroites encore que la religion catholique et attiraient les âmes des simples. Tels furent aussi, par exemple, les cathares. Les cathares qui sont apparus au XIIe, XIIIe siècle dans l'Église que Saint Dominique a eu à combattre. Cathares, cela veut dire les purs. Les cathares se prétendaient les purs, là aussi, comme des réformateurs, des abus qui avaient lieu également dans la Sainte Église. Alors, ils pratiquaient une pauvreté, une très grande pauvreté. Ils imposaient des pénitences très rigoureuses. Et là aussi, ils ont malheureusement attiré beaucoup de fidèles. Ils ont fait tomber beaucoup de fidèles dans leur hérésie, parce qu'ils séduisaient les simples. Tels furent aussi les jansénistes. Les jansénistes, c'est beaucoup plus récent. C'est au XVIIe siècle dans l'Église. Ceux qui ont étudié un petit peu l'histoire savent qu'ils ont fait énormément de mal à la France. Et au fond, ils ont préparé la Révolution française. Et ces jansénistes, là aussi, ils prétendaient présenter cette porte étroite. Ils avaient mené plus de pénitences que les fidèles dans l'Église catholique. Ils étaient plus exigeants, notamment pour la communion. Ils étaient si exigeants, d'ailleurs, que beaucoup de jansénistes ne communiaient à peu près jamais dans leur vie. Et ainsi de suite. Alors, ils séduisaient beaucoup d'âmes. D'ailleurs, l'archevêque de Paris, un jour, lorsqu'il visitait un couvent de religieuses jansénistes, donc c'était à Port-Royal, un couvent de Port-Royal, eh bien, en sortant, les caractérisait par ces quelques mots: elles sont pures comme des anges, mais orgueilleuses comme des démons. Là aussi, leurs fruits les confondaient. Elles avaient des pénitences, des grandes pénitences, elles étaient très pures. Par contre, elles étaient extrêmement orgueilleuses. Alors voilà, ces faux prophètes, ce sont les hérétiques, les hérétiques qui essaient toujours de prendre une certaine apparence de bien. Alors notre Seigneur donne un critère pour les discerner, donc les reconnaître à leurs fruits. Mais si on y pense un tout petit peu, si on essaie d'approfondir, eh bien on se trouve facilement face à une objection. Parce que dans la Sainte Église, eh bien il y a des vices, non pas la Sainte Église elle-même, mais les fidèles. Comme le dit notre Seigneur, il y a l'ivraie dans le champ du Père, dans le champ de l'Église, il y a des mauvais fidèles, et parfois même, hélas, il y a de mauvais prêtres. Et à contrario, même chez les hérétiques et même chez les païens, on peut trouver certaines vertus naturelles. Vous voyez bien dans le monde du travail, avec vos collègues de travail, il y a des gens qui sont très bien, qui ont certaines vertus. Alors comment est-ce qu'on va réussir à faire cette différence? Quels sont ces fruits, ces véritables fruits qui vont permettre de distinguer la vraie Église, l'Église catholique, eh bien, de toutes les fausses sectes? Alors, il faut distinguer d'abord l'Église en elle-même et ensuite donc les pasteurs, donc ceux qui répandent soit la vraie Église, soit eh bien les fausses Églises, les sectes. Alors, l'Église en elle-même, l'Église dans sa globalité, est sainte, comme on dit. Eh bien, elle est sainte à plusieurs titres. D'abord, parce que son fondateur est saint. Ce sont les premiers fruits de l'Église, mais c'est son fondateur. Le fondateur de la Sainte Église est sainte. Alors que les fondateurs, les pasteurs des fausses églises, que ce soit donc tous les protestants, que ce soit toutes les hérésies qui ont frappé l'Église au cours des temps, eh bien, n'étaient pas saints. Par exemple, la vie de Luther. Donc, d'abord, le fondateur de l'Église, c'est le premier titre. Ensuite, parce que la doctrine de la Sainte Église est sainte en elle-même. La doctrine de l'Église, sa morale, pousse à la sainteté. Alors que les fausses sectes, donc les sectes, les fausses églises, les hérétiques, bien, ont toujours un défaut dans leur doctrine, et parfois qui est assez flagrant. Par exemple, si on prend Luther prétendait réformer l'Église, mais en même temps, il disait qu'on était justifié purement de l'extérieur, qu'on pouvait pécher tant qu'on veut, parce que ce qui comptait, ce n'était pas les fruits des fidèles, mais c'était Dieu qui, extérieurement, imputait les mérites de notre Seigneur aux âmes. autrement dit, il résumait sa doctrine dans ses paroles, « pêche fortement et croit plus fortement encore ». C'était une mauvaise doctrine, c'était évident, puisqu'il permettait de pécher. Et ainsi de suite, tous les hérétiques. Ou par exemple, l'orgueil. Si beaucoup d'hérésies ont favorisé l'orgueil, la doctrine n'était pas sainte. Troisième distinction de la sainteté de la Sainte Église, c'est que l'Église a eu de grands saints, alors que toutes les fausses églises, toutes les sectes n'ont pas eu de grands saints. Là aussi, un grand critère. Les saints de la Sainte Église, ceux que l'on fête, ceux qui se trouvent sur les autels, comme on dit, eh bien, ont une vertu qui était tout à fait suréminente, qu'il est impossible d'atteindre par les seules forces naturelles. On ne peut l'atteindre que par la grâce, et une grâce tout à fait exceptionnelle. Donc l'Église, en présentant les véritables saints, donc un saint Dominique, un saint François d'Assise, un saint Jean Bosco et un saint Pie X, et ainsi de suite, toutes ces centaines de saints qu'a la Sainte Église, bien, si on regarde du côté de toutes les hérésies, ils n'en ont pas un seul. Ils n'en ont pas un seul. C'est donc le troisième critère de discernement. Et puis ensuite, beaucoup de fidèles dans la Sainte Église sont saints. Non pas une sainteté absolue comme les grands saints, mais du moins une certaine sainteté de vie. C'est-à-dire que la grâce permet aux fidèles de rester habituellement en état de grâce. Et cela d'une manière donc, générale dans la Sainte Église. Alors que si vous regardez du côté de toutes les sectes, il y a au moins un vice qui est pratiqué, que l'on peut retrouver. Saint Thomas montre très bien que la vertu naturelle, une certaine bonté naturelle de notre nature, permet de pratiquer certaines vertus. Par exemple, par tempérament, nous acquérons généralement toujours un certain nombre de vertus. Mais naturellement, nous avons aussi les vices de notre tempérament. Et ces vices, restent toujours de nous faire dévier, de nous faire pécher mortellement. Par exemple, quelqu'un qui est par tempérament assez aimable, qui a une certaine douceur, par tempérament aussi, il manquera de justice. Il aura du mal à reprendre ses subordonnés, reprendre ses enfants, par exemple. Donc, il laissera tomber dans le vice. Ou encore s'ériger, par exemple dans son métier, contre une injustice qui serait commise, il manquera de force. Il aura la douceur, mais il manquera de force. Ou une personne colérique, ce sera le contraire, il sera montrer une certaine force, mais il manquera de douceur. Et ainsi de suite, pour tous les tempéraments. Et à chaque fois, il y a une vertu naturelle qui est acquise facilement, mais dans le sens opposé, il y aura un vice. Dans la Sainte Église, la grâce permet de corriger cela. La grâce permet, non pas de corriger absolument parfaitement, mais chez la plupart des fidèles, ils évitent du moins le péché grave. Alors que dans les sectes, il n'en est pas ainsi. Lorsque manque la grâce, on tombe, dit saint Thomas, forcément dans quelques péchés graves qui deviennent habituels. Donc cela, c'est la Sainte Église en elle-même. Ensuite, notre Seigneur parle aussi des faux prophètes, donc ceux qui répandent l'hérésie. Comment les reconnaître? Et là, les docteurs de l'Église, les pères de l'Église, disent que ce sont principalement par les épreuves. C'est le grand critère, l'épreuve, les humiliations. Parce que les faux prophètes cherchent toujours au fond non pas la gloire de Dieu, mais leur propre gloire, mais leur propre honneur et leur propre réputation. Ce qui fait que lorsqu'arrive le temps de l'épreuve, des difficultés et surtout des humiliations, lorsqu'ils sont rejetés, ils se montrent toujours brutaux. Alors que les saints, au contraire, tous les bons pasteurs, ceux qui répandent la Sainte Église, les grands prédicateurs, à face des persécutions, se montraient toujours bons, toujours aimables. Comprenant un saint Vincent Ferrier, par exemple, un très grand prédicateur, face aux persécutions, il ne s'aigrissait nullement. Il cherchait au contraire à convertir les âmes. Alors qu'un Luther, on voit bien dans sa vie, par exemple, quand d'autres protestants se sont séparés de lui, les baptistes et autre chose comme ça, il était extrêmement brutal, extrêmement violent dans son langage. Ça, c'est un critère de discernement. Les épreuves. Alors voilà, le temps passe. En concluant, chers fidèles, notre Seigneur nous donne ici un critère de prudence. Et là aussi, c'est bien important, cette vertu de prudence. Parfois, on a hélas un peu tendance à négliger cette prudence par une simplicité qui est exagérée. Comme le disait notre Seigneur, les fils de ce monde se montrent souvent plus prudents que les fils de lumière. Fils de lumière, c'est-à-dire les vrais chrétiens. Souvent, on a trop de simplicité et on se laisse prendre au piège. Et notre Seigneur, en nous demandant la simplicité, nous demande aussi la prudence. Lorsqu'il a envoyé ses apôtres prêcher, il leur disait « Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » On marque la correspondance avec ce passage. Donc, voilà, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Alors notre Seigneur continue en disant, soyez donc simples comme la colombe et prudents comme des serpents. C'est un terme très fort qu'emploie notre Seigneur. Il nous ordonne d'être prudents comme des serpents. Bien, demandons à Notre-Dame du bon conseil cette grâce de la prudence pour être capable toujours de nous conduire dans cette vie vers la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.